ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
Vichy et les Juifs.
Ce que vous écrivez prouve que souvent, Vichy a devancé les ordres des Allemands. Je voudrais lire deux phrases de votre livre. La première, pendant l'été et l'automne de 1940, le gouvernement de Vichy lança une offensive d'ordre législatif contre les Juifs résidant en France. La plus spectaculaire de ces mesures fut le statut des Juifs du 3 octobre 40. Puis deux pages plus loin, vous dites « Il est certain que Vichy a inauguré sa propre politique antisémite avant la publication du premier texte allemand et sans avoir reçu d'ordre direct des Allemands. »
Pierre Dumayet, en 1981, c'est la coutume et la vérité de dire que la parution à cette date du livre « Vichy et les Juifs » signé par deux historiens nord-américains, Michael Marus et Robert Paxton, constitua un tournant dans l'étude du régime de Pétain. Depuis, de nouvelles générations de chercheurs ont enrichi et amendé parfois ce travail pionnier. Les archives se sont assez largement ouvertes. Là où, par exemple, vous vous préoccupiez de l'arianisation des biens et que vous vous entendiez répondre qu'il était délicat de révéler l'ampleur des fortunes juives, eh bien maintenant, l'étude est possible et l'application minutieuse des mesures anti-juives a pu être largement documentée, administration par administration, secteur par secteur. Qui plus est, il est possible de croiser les sources françaises avec les étrangères. Cependant, on sait d'expérience que dans tous les secteurs du savoir, il est intellectuellement divertissant et commercialement payant de dénoncer le savoir tel qu'il se construit. Face à l'histoire, par exemple, de faire de la contre-histoire. Des publicistes qui aiment être traités d'intellectuels, des professeurs sur YouTube qui passent pour des savants, gagnent leur vie à railler les chercheurs et les universitaires. Paxton est une figure idéale pour ce jeu de massacre. Il prendrait, paraît-il, Pétain pour le mal absolu, voire il se prendrait pour Dieu, ce à quoi il n'a jamais songé. Et devant un vaste public qui n'attendait que de revenir enfin décomplexé à une couche profonde de sa conscience, s'opère ainsi un grand bond en arrière. Il faudrait faire comme si un demi-siècle de recherche n'avait pas existé. C'est dans ce contexte que Robert Paxton réintervient et publie une version très enrichie du livre de 1981.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Robert Paxton, bonjour.
Bonjour.
Alors cette édition est largement enrichie, je disais, elle est publiée chez Calman Levy. Calman Levy, pendant la guerre, a été arianisé, non ?
Absolument. Comme toutes les entreprises juives, Calman Levy a su arriver un administrateur provisoire qui a pris l'entreprise en main.
Et qui avait beaucoup de qualités, non ?
Ben, il avait un dossier judiciaire, ce monsieur.
Cambrioleur et proxénète.
Oui.
C'est vous qui le dites, hein, je vous cite. L'arianisation a rapporté quelques 5 milliards de francs, écrivez-vous aussi. Il n'y a pas que les morts qu'il faut compter. Alors on va procéder par étapes, si vous le voulez bien, comme dans votre livre. Première étape, juin 40, mars 42. Pierre Lubaillet, tout à l'heure, évoquait le premier statut des Juifs. Vichy, dès le 10 septembre, avait été averti que les Allemands, c'était prévisible, hein, voulaient produire un texte contre les Juifs et a voulu devancer les choses.
Oui, mais il ne faut pas penser que Vichy n'avait commencé que le 10 septembre 40. Dès les premières semaines, sans la moindre pression des Allemands, qu'il était à peine installé à Paris, Vichy commençait à légiférer contre les Juifs, abolition du décret Crémieux, abolition
qui portait sur la naturalisation
qui donnait
des
la
Juifs
citoyenneté
en
aux Juifs de l'Algérie, annulation de décret Marchandot, qui réprimait des articles dans la presse qui s'attaquaient aux Juifs ou d'autres groupes ethniques, des lois interdisant l'exercice du droit ou de médecine aux gens nés de pères qui n'ont pas français. Il est vrai que le mot juif ne paraît pas, mais ces gens ne pensaient pas aux Albéniens ou aux Péruviens quand ils ont écrit cette loi.
Enfin, pour ne pas être distancé en matière d'arianisation, justement, et de contrôle de la sécurité et de la police par les occupants, Vichy prépare pour un conseil des ministres le 1er octobre 1940 un texte dont il est difficile de déterminer si c'est le garde des Sceaux ou le ministre de l'Intérieur qui en ont assuré la rédaction. On sait que Pétain a jugé bon de ne jamais s'exprimer publiquement sur les Juifs. On se demandait quelle était sa part dans la rédaction de ce statut jusqu'à ce qu'un document important soit produit en octobre 2010.
Voilà donc le document original annoté de la main du maréchal Pétain. C'est le brouillon du projet de loi d'octobre 1940 qui fixe le statut des Juifs. Une annotation du maréchal et les Juifs ne peuvent plus du tout enseigner alors que le texte de départ leur interdisait seulement, si l'on peut dire, d'être recteur, inspecteur, directeur. Enfin, le premier projet épargnait les Juifs français de longue date. Un trait de crayon de Pétain, tous les Juifs sont stigmatisés. C'est ce statut qui est promulgué au journal officiel le 18 octobre 1940.
Ce qui est nouveau, c'est l'antisémitisme personnel de Pétain, alors que jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas la preuve. On voit qu'il est en possession de ses moyens et que ce n'est pas un vieillard sénile à qui son entourage impose un statut.
Commentaire en 2010, donc, de Serge Klarsfeld qui a contribué à produire ce document. Robert Paxton.
Eh bien, oui, c'était étonnant parce que dans la première édition, nous avons écrit que le maréchal Pétain ne disait rien en public. On savait qu'il était entouré de gens antisémites qui s'exprimaient ouvertement de cette façon-là, donc il n'avait rien contre des antisémites, mais il était plutôt discret. Mais voici, on le voit agissant directement. On savait qu'il était très concerné par les instituteurs, même depuis les années 30, donc c'est pas très surprenant qu'il ajoute les instituteurs, mais c'est absolument étonnant pour voir qu'il étend la législation à tous les Juifs, y compris ceux de citoyenneté française.
Alors, ce texte est présenté comme un brouillon dans le document, même quand il est promulgué. D'une certaine manière, c'est encore un brouillon qui laisse place, à cause de sa définition imprécise des Juifs, à quantité de litiges. Et pendant un an, de mars 41, où il est nommé premier commissaire général aux questions juives, jusqu'à mars 42, Xavier Vallat, un antisémite de bonne souche française, hein, oui. Un antisémite sérieux, écrivez-vous, va travailler à ordonner ce statut des Juifs, en produisant d'autres, à les durcir et à les faire appliquer.
Oui, Xavier Vallat, c'était député de l'Ariège, un homme de droite, catholique, patriote, ancien combattant, il avait perdu un œil et une jambe pendant la Première Guerre mondiale, farouchement antisémite et aussi anti-allemand. Donc il était un choix assez habile de la part de Vichy, mais il faut dire tout de même qu'il n'était pas le seul qui a travaillé à coordonner la législation anti-juive, parce qu'une des découvertes de cette nouvelle version, c'est que l'administration traditionnelle, avant la création du commissariat aux questions juives, l'administration traditionnelle agissait pour coordonner l'application. C'est la présidence du conseil, Maurice Lagrange en tête, qui faisait ce travail. Et donc, un des changements dans la nouvelle édition, on voit que ce n'est pas seulement les idéologues du commissariat, mais aussi l'administration traditionnelle.
Mais vous présentez le commissariat comme une surimposition, qui n'a pas pouvoir vraiment sur les administrations, qui néanmoins, ayant une conscience exacte de leurs devoirs, applique, c'est bien documenté maintenant, secteur par secteur, minutieusement les mesures anti-juives.
Oui, oui, je crois que les administrateurs, les hauts fonctionnaires ont été complètement acquis à l'idée qu'après la défaite, il faut absolument restaurer l'autorité de l'État et qu'une fois qu'une loi est promulguée, c'est la loi et il faut l'appliquer.
Parmi les mesures qui sont prises et dont ne s'occupe pas Xavier Vallat, qui ne s'abaisse pas à certaines besognes, il y a l'internement. Vichy, expliquez-vous, va envoyer, après avoir développé les camps déjà nés sous la Troisième République, un inspecteur, André Jeanfort, pour faire un rapport sur l'état qui est le leur au bout de plus d'un an de fonctionnement. C'est à ce moment-là que Radio Paris, heureusement Radio Paris dit toujours la vérité, Radio Paris c'est pas Radio Vichy, hein, délègue un reporter à Beaune-la-Rolande. Nous sommes après la première grande rafle opérée par les Allemands avec des forces de l'ordre françaises contre des Juifs, alors seulement des Juifs étrangers.
Bien que les Juifs étrangers ne soient ici que depuis 48 heures, comme je vous le disais tout à l'heure, l'horaire du camp est déjà strictement établi. Le réveil a lieu à 6 heures. Ce sont les sonneries de trompettes par le gendarme de service, là-bas au poste de garde, qui réveille les hommes qui doivent sauter à bas de leur cheval. Et ils se trouvent à 7 heures, en se rangeant en file le long du petit bâtiment de la cuisine, le café. Ensuite, à 11 heures, ils ont la soupe, et à 18 heures également. Le couvre-feu est sonné à 21h30. De quoi se compose la soupe? Eh bien, mon Dieu, aujourd'hui, nous avons vu que c'était assez copieux. Il y avait une large soupe dans laquelle il y avait pas mal de légumes, des betteraves notamment, quelques pommes de terre, même des haricots. Ils ont ensuite un fromage, et ils auront en tout cas sûrement deux fois par semaine de la viande. C'est-à-dire que c'est un menu qui est tout de même assez copieux. Que vous dirais-je encore sur ce camp, si ce n'est que l'hygiène y sera assurée par une infirmerie fort bien organisée, dans une grande baraque entièrement armée, et à l'intérieur de laquelle se trouveront en permanence une quinzaine de docteurs, pris parmi les docteurs juifs internés dans le camp, et qui seront dirigés par un médecin français, arien, qui est venu de la région. Les hommes marchent, en ce moment je les aperçois au soleil, il y a un très grand espace vide, et c'est que les hommes ne perdront pas ici l'habitude de la marche, à laquelle ils n'étaient d'ailleurs pas souvent bien habitués, je crois qu'ils étaient plutôt habitués à être assis en tailleur au fond de leurs échoppes.
Mai 41, Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Le commissaire envoyé par Vichy faire le rapport n'aurait pas dit la même chose que le journaliste de la radio collaborationniste.
Non, sûrement pas. Alors, le lendemain du statut du 3 octobre, il y avait la loi du 4 octobre 40 qui a eu un effet encore plus immédiat. C'était la loi du 4 octobre autorisait les préfets à interner les gens sans papiers, les immigrés sans moyens, les réfugiés, à les interner sans référence au ministère, sur leur propre autorité. Donc on a donc énormément de réfugiés qui sont de juifs qui sont partis de l'Europe centrale pour fuir Hitler. Ils se trouvent enfermés dans les camps en France. Il faut dire que la France avait été une destination de préférence depuis longtemps. Et pendant les années 30, quand les juifs qui fuyaient Hitler cherchait un asile, ils ont naturellement choisi la France. Et la France recevait plus de réfugiés proportionnellement que les États-Unis, parce que les États-Unis avaient des quotas. Je ne dis pas que le numéro était plus grand, mais la proportion par relation à la population. Ils ont reçu au moins 50 000 réfugiés juifs à la fin des années 30. Ils ne savaient pas très bien ce qu'il fallait en faire, avec le chômage, avec un climat hostile aux étrangers, avec un sens de déclin, le danger, la guerre, peur pour la pureté, la langue française et tout cela. Les réfugiés n'étaient pas bien reçus. Et donc, certains sont déjà internés, mais par comble de malheur, il arrive en même temps 460 000 Espagnols, réfugiés espagnols. Donc, la France est vraiment en grande difficulté avec tous ces étrangers.
La Troisième République finissante avait donc ouvert en prélude les camps d'internement. Leur régime a été singulièrement durci par Vichy.
Oui. Et puis, le régime de tout le monde a été endurci parce qu'il n'y avait pas assez à manger. Et a fortiori, les prisonniers étrangers n'étaient pas les premiers recevoir de quoi manger. Donc quand il y avait de la très mauvaise publicité au sujet des camps, Pétain a envoyé le préfet André Jean Faure pour voir ce qui se passait. André Jean Faure, qui était un homme honorable, qui appliquait la loi, bien sûr, mais qui reconnaissait un scandale qu'il voyait, il a reconnu que les gens mouraient de faim et de maladie. Et le maître Klausfeld a établi qu'à peu près 3000 réfugiés étrangers sont morts dans les camps avant d'être déportés. Donc les conditions étaient très mauvaises.
Un des intérêts de l'édition que vous avez refaite de votre livre commun avec Marus, Robert Paxton, c'est d'insister aussi sur une autre solution que Vichy a appliquée en revanche avec beaucoup de mollesse, puisqu'il voulait expulser les juifs étrangers. Pourquoi oui. n'ont-ils pas mis davantage en valeur les possibilités relatives qu'offraient les pays étrangers qui acceptaient encore de donner des visas? Pourquoi il n'y a pas eu une administration de l'immigration efficace de Vichy?
Nous n'avons pas de réponse. Ça semble vraiment très bizarre. Beaucoup de pays étaient enfermés. Aux États-Unis, les Juifs entraient sous le quota allemand autrichien. À Shanghai, il avait des places. La République dominicaine, il avait des places. Mais c'est curieux. Il semblait que personne ne voulait faire une faveur à ces gens. Et c'était plus simple de les enfermer. Et on pouvait aussi les faire travailler. Certains nombres ont été mis dans des groupements de travailleurs étrangers pour faire des travaux. Les prisonniers de guerre étaient absents. Donc on avait des travaux de récolte. Et plus tard, la construction du mur de l'Atlantique.
Pendant cette première période, nous allons la clore, qui va se terminer en mars 42. L'opinion est encore relativement indifférente et il faut dire que le maréchal est entouré d'une adulation dont il s'accommode fort bien. Je vous propose qu'on écoute, pour clore ce moment, maréchal, nous voilà, dont je vous disais avant l'émission qu'on ne l'entend pas souvent en France, mais il y a beaucoup de Français qui le savent encore par cœur.
Mais j'ai donné une conférence en Bourgogne il y a quelques ans. Mon ami qui l'a organisé a joué un disque de cela et tout le monde a chanté, tout le monde savait les mots.
Bah, il faut dire que les paroles sont d'André Montagard. Et l'interprète historique, c'est André Dassary.
Flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans à ton appel suprême ont répondu présent. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Vichy et les Juifs, nouvelle édition enrichie du livre de Michael Marus et de Robert Paxton aux éditions Kalman Lévy. Toujours une consigne quand on parle de cette époque périodisée, n'est-ce pas?
Parce absolument. Que,
nous passons à la deuxième étape, celle qui commence en mars 42. Xavier Vallard est congédié de son poste de commissaire général aux questions juives. Les Allemands jugent qu'il faut passer à une vitesse supérieure.
Hein. Oui.
Et c'est à partir de mars 42, d'ailleurs, que commencent à rouler les trains. Il faut être précis, hein, le premier convoi a transporté les Juifs vers les camps dans des wagons de voyageurs de troisième classe.
C'est ça.
C'est plus tard que oui. sont venus les wagons à bestiaux. Deux ou trois mois après ce premier transfert, en zone occupée. Deuxième consigne, toujours distinguer la zone non occupée, la zone occupée. En zone occupée, les Allemands imposent le port de l'étoile jaune. On va entendre un extrait du film de Jonathan Sfar qui est consacré à Serge Gainsbourg. Je vais vous le faire découvrir, Robert Paxton. C'est un peu de la légende, hein. Mais le petit Serge Gainsbourg serait allé réclamer son étoile auprès de la police municipale qui en assumait la distribution.
Qu'est-ce que vous foutez dans mon bureau avant les horaires d'ouverture?
Bah, c'est à cause du gamin, hein, monsieur Poletti. Il veut son étoile avant tout le monde.
Merci, monsieur. Si j'étais en retard un jour comme ça, j'en aurais honte toute ma vie.
T'es si pressé de la porter, ton étoile?
C'est votre étoile, monsieur. C'est vous qui souhaitez que je la porte.
En quoi cette mesure se justifie, monsieur? Les Juifs, évidemment, se lamentent. Et ce qui est plus grave, beaucoup de Français à rien se lamentent pour le compte des Juifs et ont pitié d'eux et de la mesure nouvelle qu'on prend. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure vexatoire ou au contraire d'une mesure qui vous paraissait s'imposer?
Oh, mais il ne s'agit pas le moins du monde d'une mesure vexatoire. C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol, mais d'une façon fort tenace, et ils sont venus surtout pour profiter, et très peu pour travailler réellement. Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. La question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue.
Troisième consigne, professeur Paxton, ne pas confondre les collaborationnistes. Là, c'était le leader d'une officine collaborationniste à Paris, sur Radio Paris,
oui,
avec Vichy. Parce que Vichy s'oppose à la généralisation de l'étoile jaune en zone non occupée.
Et Vichy a réussi à empêcher que l'étoile jaune soit imposée dans la zone non occupée, et même après l'occupation totale de la France en novembre 1942. Et pourquoi? Non pas parce qu'ils aimaient les Juifs, mais parce qu'ils trouvaient, ils voulaient surtout paraître aux yeux du monde comme un État souverain. Même chose pour la déportation de Juifs de citoyenneté française.
On va y venir. Je reste sur le thème de l'étoile jaune. Vous donnez aussi d'autres raisons. Vous dites, souvent on vous accuse de considérer Pétain comme le mal absolu. Ben non. Vous dites, c'est pas un État ségrégateur, enfin au sens de la ségrégation par l'apartheid, non. Vous citez le Scapini qui s'occupe des prisonniers, qui a cette remarque extraordinaire, tout à fait Vichy. Mais enfin, dit-il aux Allemands, on va tout de même pas mettre l'étoile jaune à côté des décorations françaises.
Et puis la réponse allemande, ben, il faut pas porter les décorations. Mais plus tard, le régime de Vichy impose le tampon J sur les cartes d'identité et les cartes de rationnement, qui est encore plus grave. Le Vichy répugnait à une marque publique qui est humiliant.
Oui, mais Vichy aussi sait, parce que il y a quand même des rapports sur l'opinion, que celle-ci va peut-être évoluer et que l'opinion va être blessée profondément.
Oui.
Par ce signe extérieur.
Oui, mais l'opinion était en train d'être blessée profondément en été, précisément au mois de mai et surtout juin-juillet 1942, par l'arrestation en masse de Juifs et la séparation des parents et de leurs enfants, qui a eu un impact catastrophique pour Vichy, avec la dénonciation de cela par un certain nombre, pas tous, par certains évêques.
Qui disent, attendez, on est vraiment maintenant à la limite de l'opposition, messieurs. Vous accordez beaucoup d'importance dans cette nouvelle édition, pas seulement au travail des historiens, mais au travail de représentation tel qu'il est développé sur les écrans. Je vous propose, puisque vous parlez de l'été 42, de vous passer un extrait de la série Un village français, conseillé par votre ami Jean-Pierre Azéma. Nous sommes dans une petite ville du Jura, le 27 juillet 42, donc 10 jours après la rafle du Veldiv à Paris. Des Juifs étrangers de Belfort et Montbéliard sont dirigés vers l'Allemagne. Une escale technique les oblige à s'arrêter dans le village de la Série. Et voilà qu'un débat s'ouvre.
C'est le sous-préfet.
Les Allemands m'ont donné une liste. Il y a 28 noms. Il faut donc leur fournir 28 Juifs avant demain ou après-demain.
Excusez-moi, mais arrêter des Juifs, c'est le boulot des Allemands, non?
Plus maintenant. Il y a eu un accord au plus haut niveau. Et après tout, s'ils veulent nos Juifs étrangers, qu'ils les prennent.
Dans la liste, il semble y avoir des
arrestations. Faites votre boulot! Et débrouillez-vous pour qu'il y en ait 28 et je veux un rapport sur ces arrestations toutes les 6 heures. C'est compris? Messieurs?
Monsieur le sous-préfet.
Excusez-moi, patron, mais...
Oui, dernier, quoi?
Arrêtez des civils non-délinquants, on est censé faire ça.
Bon, alors écoutez, on est censé faire ce qu'on vous demande. C'est clair, ça? Vous arrêtez les apatrides, les Allemands, les Autrichiens, les Polonais, les Tchèques et les Russes. Pas les autres.
Et en cas de doute sur la nationalité?
Vous arrêtez, vous serez asservié de se démerder ensuite.
Et les enfants?
Quoi, les enfants?
Vu leur âge, certains ont dû naître ici, donc ils sont français. On en fait quoi?
Bah, tu les arrêtes pas, il n'est pas question d'arrêter des Français.
Et si les deux parents sont étrangers, on va pas laisser un môme de 2 ans tout seul dans un appartement.
Bon, eh bien, dans ce cas-là, c'est à vous de voir. Si la mère veut le garder avec elle, c'est très bien pour notre quota. Si elle veut pas, je sais pas, elle le donne à une amie, à une voisine, peu importe. D'accord? Si ça se complique, vous embarquez, on fera le tri ici.
Bah, c'est compliqué quand on a affirmé la primauté de la famille, qu'est-ce qu'on fait des enfants. Ouais. Là, on entend, de même que vous avez dit que l'opinion commence à changer, l'hésitation non la police, qui s'adresse au sous-préfet de manière diverse.
Oui, oui. Au début, la police française a coopéré activement aux arrestations, à la déportation, parce que il y a un accord entre Bousquet, le chef de la police française, et Auberg, chef de la police allemande, pour donner davantage d'autonomie à la police française. C'était très important pour le régime, pour vous, qui voulait montrer, comme je l'ai dit, que c'était un État souverain. Donc, il voulait que la police française soit chargée de des arrestations. Et puis, ça devenait de plus en plus désagréable. Séparation de famille, des gens qui se fondraient de panique, etc. Donc, on a des polices qui disent aux gens, je reviens dans une heure pour vous arrêter. Donc, un nombre considérable de polices ont fait des remarques comme ça pour laisser partir les gens.
Novembre 42, quand la zone non occupée devient occupée, cette première vague de déportation est terminée. Juste un mot sur la période de 1943. Vichy sent que l'issue de la guerre n'est pas celle qu'elle avait imaginée dans un premier temps. L'occupation italienne est remplacée par l'occupation allemande du côté de Nice et de Menton et de la Savoie. Et là, la police de Vichy ne va pas collaborer aux grandes rafles. Il y a abstention. Et enfin, la même année 1943, je clôt ma question, Vichy finit par refuser les propositions de dénaturalisation des Juifs qu'il avait été après 1927.
Oui, c'était un refus très important. Notons que c'est tard dans la guerre, notons qu'on commence à avoir une idée de ce qui arrive à la fin de ces déportations. Et notons que l'opinion publique est vraiment maintenant très hostile à ces déportations, dans une grande partie. Pas complètement, mais en grand nombre. Mais notons finalement que là aussi, il est question de la souveraineté de l'État de Vichy. Et Laval dit à Auberg, il faut cesser de nous demander les Juifs comme si nous étions dans un prix unique, toujours en quantité accrue au même prix. Ça nous pose des difficultés, et puisque les Allemands voulaient déporter tout le monde, ils ont proposé que la France dénaturalise beaucoup des Juifs récemment naturalisés. Et Laval dit non, parce qu'il sait, parfaitement bien que s'il fait ça, Vichy sera vu dans le monde entier comme un État faible.
Ultime interrogation, Robert Paxton, vous travaillez avec Michael Maris, fait après fait, moment après moment, construisez des approches de la vérité. Quelle impression ça vous fait quand il y a des pseudo-intellectuels qui défont votre échafaudage et qui disent « tout ça c'est rien, il n'y a qu'à reprendre l'édifice des vieilles légendes telles qu'elles existaient après la libération ». De Gaulle, l'épée, Pétain, le bouclier, Pétain, le sauveteur des Juifs français.
Mais c'est un peu déprimant de voir un livre qui n'est pas fondé sur la recherche. C'est pas surprenant. Beaucoup de gens préfèrent d'avoir une version un peu édulcorée de leur propre histoire. Ça ne me surprend pas. Mais je crois que la seule façon de former les jeunes, c'est de les montrer toute l'histoire de leur pays, les parties glorieuses, les parties moins glorieuses. Parce qu'autrement, on ne peut pas progresser sans savoir ce qu'on a fait pas très bien dans le passé. Il n'est pas possible de faire mieux dans l'avenir.
Merci à vous, Robert Paxton. Votre livre, signé aussi de Michael Marus, bien sûr, Vichy et les Juifs aux éditions Kalman-Lévy. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, avec à la réalisation Jacques Sigal, à la technique Éric Mainvielle.